France Inter. .fr.
Bonjour, Marc Lavoine est l'invité de Vous avez dit classique. Bonjour. Aujourd'hui. Bonjour. Marc Lavoine, le chanteur, l'acteur et l'auteur, devenu auteur reconnu depuis son succès littéraire avec L'homme qui ment, sorti chez Flammarion et qui vient de paraître...
Fayard, pardon.
De paraître en poche. Dans L'homme qui ment, Marc Lavoine raconte son enfance en banlieue parisienne, faite de larmes, retenues, de mélancolie et grandiloquence aux côtés d'un père communiste et grand séducteur, d'une mère sous l'emprise des mensonges et d'un grand frère protecteur. Une belle histoire douce et amère, pleine de musique, au pluriel, de films et d'aventures, et une occasion pour nous de découvrir ce chanteur, auteur de tubes tels que Elle a les yeux revolvers, Rue des Acacias ou encore Paris Paris, à travers ses goûts musicaux classiques. Donc bonjour à vous, Marc Lavoine.
Bonjour, bonjour. Merci de m'inviter.
Avec plaisir. C'est vrai que ce livre se dévore comme un film. On a l'impression de retourner dans les années 60-70 avec vous, dans un monde un peu d'insouciance, alors qu'il y a beaucoup de tristesse, on va pouvoir en parler. En tout cas, c'est l'occasion pour nous aussi de découvrir vos goûts musicaux classiques, parce que c'est vrai que le chanteur que vous êtes ne nous a pas donné forcément l'occasion de découvrir ce répertoire-là. Et pourtant, au programme d'aujourd'hui, c'est très varié. Debussy, Bach, Prokofiev, Barber, Smetana, c'est pas toujours gay, mais c'est peut-être...
C'est rarement gay, la musique.
Oui, si. Pour vous, c'est rarement gay.
Oui, je pense que la musique a un langage quand même mélancolique.
Sauf peut-être le jazz qu'aimait votre père, il voulait devenir trompettiste, non?
Oui, mais enfin, vous savez, quand vous regardez le répertoire des New Yorkais, enfin, des jazzmen de l'époque, soit Bix Beiderbecke, Sooty Singleton, tous ces gens, Armstrong, leur musique vient d'une lancinante, il y a une douleur lancinante dans le jazz. Qu'on transgresse pour faire naître une forme de joie autour du foyer de la mélancolie et dans le monde de l'esclavage, dans la discrimination, les gens qui souffrent de discrimination parce qu'ils sont ou autistes ou ce qu'on veut, il y a du rire. J'ai vu ça au Téléthon, j'ai vu ça aussi au Resto du Cœur.
Avec les papotins aussi.
Exactement, il faut rire. Le rire, c'est une arme. C'est comme une toile de Picasso. C'est fait pour lutter contre l'isolement, contre la servitude. Et le rire, on le voit aussi avec Chaplin, avec tous les grands qui nous ont fait rire et pleurer en même temps. Moi, j'aime beaucoup les artistes comiques grâce et à cause de ça. C'est leur pudeur à ne pas nous faire pleurer, mais à continuer à vivre. Le rire, c'est la vie, quoi.
Alors, on va rire et pleurer aujourd'hui. On va commencer avec Prokofiev. Mais d'abord, cette question. Marc Lavoine, vous dites être chanteur depuis toujours, que vous chantiez déjà dès l'âge de 3 ans, c'est vrai ?
Oui, je ne pense pas qu'on devienne ni chanteur d'ailleurs, ni acteur, peut-être acteur, c'est peut-être une décision qu'on prend, mais j'ai l'impression qu'on est ce qu'on devient, enfin, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre du non-choix, c'est quelque chose qui nous appelle, ça peut être l'église, ça peut être une idéologie, et puis moi ça a été plutôt... les artistes, le monde de la création et de la création collective.
Vous chantiez quoi ?
N'importe quoi. Je pouvais aussi murmurer, inventer des chansons. Quand j'étais petit, je me berlinais dans mon lit. C'est un mot qu'on a inventé avec ma mère. C'était une incantation. Je basculais d'avant en arrière dans mon lit assis en tailleur en écoutant les avions qui décollaient. Et je fredonnais des chansons. Je composais des chansons ou alors je reprenais les chansons que j'écoutais chez moi, c'est-à-dire des fragments de Brassens, de Trenet, de Barbara, de Gainsbourg ou de Ferret.
Prokofiev, Pierre et Leloup, j'imagine que vous l'avez entendu la première fois dans la version de Gérard Philippe.
Exactement, j'avais le vinyle à la maison, nous avions le vinyle, on avait plusieurs vinyles d'histoires qu'on nous racontait sur les lettres de Montmoulin, racontées par Fernandel, c'était des grands acteurs qui racontaient des histoires comme aujourd'hui d'ailleurs, souvent ça arrive. Et cette version en vinyle de Pierre et Leloup qui faisait peur, c'est vraiment un univers incroyable parce que la voix de Gérard Philippe était l'acteur préféré de mon père. Donc,
en plus acteur communiste je crois,
voilà,
mon père était communiste. Et alors donc, c'était l'acteur préféré de votre père, et donc vous l'écoutez.
Je n'étais pas seul avec mon frère, parce que sinon j'avais trop peur de l'écouter
seul.
Ah,
c'est vrai ?
Et c'est mon frère qui m'accompagnait, qui me surveillait pendant que j'écoutais, les yeux fermés, parfois, avec frayeur. C'était extraordinaire. Et puis on avait la chèvre de Monsieur Seguin, on avait plein de disques comme ça, dont les musiques étaient souvent classiques, et les acteurs formidables.
Bon, alors on va l'écouter en version orchestrale sous la direction de Leonard Bernstein, le moment où Pierre revient triomphal avec son loup sur le dos de ce conte musical composé en 36 par Prokofiev à la demande de la directrice artistique du Théâtre Central des Enfants de Moscou, afin que le jeune public se familiarise avec les instruments de l'orchestre. On peut dire que c'est une mission réussie. Oui. Pierre et le loup de Serge Prokofiev, arrangé pour orchestre par Leonard Bernstein avec le Philharmonique de New York. Et effectivement, sacré Serge Prokofiev puisqu'il a réussi bon chef d'orchestre. Alors, Marc Lavoine, votre mère, semble-t-il, aurait voulu être danseuse étoile.
Oui.
Et comprendre aussi ce qui lui est arrivé parce qu'on sent bien qu'elle est perdue toute votre petite enfance. On sent que c'est quelqu'un qui se laisse prendre par la vie.
Ouais, c'est une génération qui a été quand même coincé entre la Deuxième Guerre mondiale et puis ce qu'on appelait les événements pour masquer le mot guerre, l'Algérie, qui a été une guerre absolument épouvantable. Et tous les gens qui me parlent du livre et qui ont fait l'Algérie, soit ils étaient à la CGT ou communistes au PTT, ou bien simplement l'armée de conscription, ou même des militaires engagés qui savaient faire donc, la guerre, m'ont dit, après avoir lu le livre, que les cauchemars leur reviennent et que surtout, c'est en 56-57, c'est épouvantable. Donc c'est vrai que les gens sont, c'est ce que je dis, mon père est mort en Algérie et il a vécu en France jusqu'à l'âge de 72 ans, mais il est mort là-bas d'une certaine façon.
Oui, parce qu'il est revenu muet.
Voilà, muet pendant 2 ans et ensuite sous la respiration artificielle de la poésie. De Neruda, de Gauguin, de tous les poètes et tous les artistes qu'il faisait vivre, les grands cinéastes italiens, et puis surtout les femmes.
Et l'humour aussi.
L'humour, bien sûr. Ouais. Et puis les femmes. C'est vrai que les femmes lui ont donné cette chance de pouvoir encore respirer et d'écrire son film. Il a écrit ses dialogues les jour après jour. Il a construit quelque chose de formidable, qui me semblait être presque un mensonge ou quelque chose d'enjolivé, et qui finalement ressemble beaucoup plus à. Je pense que le monde a plus menti que lui ou a plus enjolivé les choses que lui.
Belle façon de voir les choses. L'aria de Bach, hein, qui est tirée de cette suite orchestrale en ré majeur de Bach, fait partie des œuvres que vous vouliez nous faire entendre. Oui. Moi, je le mettais du côté de votre mère.
C'est-à-dire que les chanteurs d'une époque ont appris à des jeunes comme moi qui ont quitté l'école à 15 ans à aimer le classique. Ça a été le cas pour Gainsbourg, ça a été le cas pour des groupes anglais aussi qui reprenaient des suites d'accords, des harmonies qui appartenaient au domaine du classique, auxquelles j'étais pas tellement appelé au départ. J'étais pas invité vraiment naturellement d'aller vers cette musique-là. C'est grâce au
pop. Oui, parce que chez vous, c'était plutôt chanson française.
Ou jazz beaucoup.
Jazz
mon frère, mon père, et puis chanson française. Et ma mère écoutait un peu de classique, mais c'était plus timidement, comme elle était chrétienne, timidement, dans la famille communiste. Le classique était un peu timide comparé à Nougaro ou aux autres qui hurlaient dans le salon. En revanche, les Gainsbourg, et les Ferrat, les Ferret, et les groupes anglais m'ont apporté cette poésie française d'Aragon ou des autres, et puis en même temps la musique classique, de Ravel, de Chopin, et aussi donc de Beethoven, etc. Et là, c'est les groupes pop qui m'ont emmené à écouter les versions originales.
Effectivement, cette aria a été de nombreuses fois transcrite. Je vous propose la transcription pour piano et violon avec Yehudi Menuhin au violon. Ça vibre, c'est simple. J'espère que ça vous plaira.
Thank you.
l'air de la suite orchestrale numéro 3 en ré majeur de Bach, interprété par Yehudi Menuhin au violon.
C'est fou là. C'est comme quand on boit un grand vin. Vous allez chez Romane et Conti, par exemple, ou dans les grands bordelais, vous buvez du vin avec quelqu'un. Vous avez pas tout à fait le même goût dans la bouche, mais vous avez une émotion commune, une sorte de foi commune, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit païen. D'un coup, il y a un bien commun qui se crée. Et je reviens de Londres, là où j'ai enregistré des orchestres symphoniques pour un disque que je vais sortir bientôt avec Cœur de Pirate et Béatrice et Arthur H, un trio, que ça fait 7 ans que je travaille sur ce projet. Nous étions à Londres pour enregistrer, et dès que le chef d'orchestre lève la main et qu'on sent que tout l'orchestre, avec les cors, les contrebasses, les cellos, les violoncelles, se mettent à jouer ensemble, il y a quelque chose de divin qui se passe.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Marc Lavoine, vous êtes avec nous pour raconter ce bout de vie, l'enfance, mais jusqu'à aujourd'hui, l'enfance en tout cas en banlieue parisienne, à Wissous, c'est ça ?
Wissous,
je disais Wissous, mais non, c'est
Wissous. Il fallait payer Wissous pour passer par là, je crois, historiquement. C'est une petite... c'est bloqué, c'est coincé entre les pistes d'Orly, la prison de Fresnes et les Halles de Rungis.
C'est sympa.
Et c'était vraiment magnifique.
Avec ses parents qui étaient assez ordinaires, et à la fois dans ce côté ordinaire, il y avait quelque chose de la vie qui transparaissait très clairement.
Ils étaient ordinaires, mais c'était un peu des gens bohèmes déjà au départ. Hein. C'est vrai que mon père faisait du jazz dans un groupe, il jouait du saxophone. J'ai des photos, j'ai retrouvé pas mal de photos de lui, parce que je travaille sur l'adaptation pour le cinéma, donc je me documente sur mes parents et sur l'époque dans laquelle ça s'est passé, parce que ça s'est passé à 3 ou 4 époques qui sont vraiment des fragments qui basculent les uns sur les autres. Hein. On passe de la réclame à la publicité pour aller vers la pub et finir dans la com. Donc c'est pas les mêmes époques, dans le même pays, sur la même banlieue, dans la même France.
C'est fou, parce qu'il y a 50 ans d'écart, on sent que c'est pas le même pays.
Il s'est passé quelque chose de fondamental. Et ces gens-là... sont des gens merveilleux, parce que c'est vrai que même si on s'est trompé sur la finalité des choses, les camarades, les gens, les travailleurs sociaux, les gens dans les associations, c'est des gens merveilleux qui ont jalonné cette vie. Donc il y a peut-être au bout une forme de... On est tous un peu perdus là-dedans, dans la société nouvelle, mais il y a quand même des camarades et des yeux que j'oublierai jamais, parce que ce sont des gens qui ont forgé mon existence.
Et ces gens-là, écoutez ça.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'ensommeille, chez nous il y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas de lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Mamôme, interprété par Jean Ferrat, qui vous renvoie directement à cette enfance, Marc Lavoine, cette enfance avec un père séducteur au possible. On a l'impression que Mamôme est écrite presque pour lui, puisqu'il avait au minimum deux maîtresses, en plus de votre mère, minimum, enfin officielle.
Ouh, ça a été jusqu'à cinq. Non, il était costaud.
Et vous rendez complice, en fait, de ça, sans le vouloir, mais...
C'était un enfant aussi, hein. C'est vraiment des gens particuliers, parce que c'est des gens qui étaient très cultivés. Mon père était très, très cultivé. Il avait une culture incroyable, politique et littéraire, artistique et philosophique. Et en même temps, ils avaient, peut-être sûrement à cause des guerres, gardé cette fraîcheur de vivre à l'instant. Alors, la seule différence... Et ils pensaient d'ailleurs que le monde allait changer à l'instant, oui, de leur vivant. C'était bizarre, hein. On pense plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui,
très utopiste.
Oui, aujourd'hui l'utopie est beaucoup plus réelle. Quand Mohamed Younous fait du social business avec le microcrédit, il est réel tout de suite. Hein. C'est le cas du Téléthon, c'est le cas du Resto du Cœur, par exemple. On doit être réel dans l'année qui vient, parce que sinon ça n'attendra pas l'année suivante. Eux, ils avaient une sorte de pensée philosophique qui traînait sur changer un monde de leur vivant. C'était bizarre. C'est pas comme ça que ça s'est passé.
Tourner vers le bloc communiste, vraiment?
Bah, à partir de 68-9, il y a des fragments, enfin, il y a des fissures quand même dans la conscience. Évidemment. Et puis, jusqu'à Solzhenitsyn, c'est sûr que ça va commencer à fissurer sérieux chez les intellectuels du parti. Mais à l'époque, quand même, Picasso, Sartre, je veux dire, Signoret, les artistes étaient avec ce mouvement aussi. Donc. Ils ont fait beaucoup de dégâts, mais enfin les communistes, c'est un peu des travestis. Ils se sont fait avoir par des... C'était les premières dictatures de gauche aussi. C'était quelque chose d'assez nouveau, d'une certaine façon. On avait des monarchies un peu dictatoriales, des dictatures de droite, mais de gauche. On était plus dans le mouvement de 36, où les gens s'étaient libérés, ils pouvaient publier Franco, les Espagnols venaient en France, ils se battaient, etc. Les luttes, elles étaient quand même de gauche, je veux dire... Si les femmes ont eu le droit de voter, si elles ont été... Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces luttes-là ont été quand même issues d'un mouvement de gauche, et puis elle a pris un virage à droite un peu après.
Alors, pour faire référence à votre père, qui était un poète, un intellectuel, peut-être on va écouter ce poème symphonique, inspiré donc d'un poème composé par Smetana, tiré de Mavlast, ma patrie, composé en 1874, qui évoque la nature tchèque, comme la Moldau, et qui est la principale rivière de Bohème. Je me demandais si c'était en référence justement à cet idéalisme, à cette...
Je sais pas d'où c'est venu, mon frère écoutait ça toute la journée.
C'est vrai ?
Il écoutait du classique quand il peignait. Il écoutait Deep Purple, les Stones et les autres, mais il écoutait aussi beaucoup de classiques quand il composait ses toiles ou faisait ses croquis. De temps en temps, il y avait une fiancée à lui qui venait poser à la maison.
Il était au fond du jardin.
Il avait sa chambre en dessous, sur la pelouse à l'étage d'en dessous. Et il avait fait un atelier, il avait des appareils photos Olympus Minolta 24-36. Et puis il travaillait avec de la peinture, des fusains, avec ses fiancés qui se déshabillaient légèrement. Ça, c'était très joyeux. Et il écoutait en boucle des morceaux classiques de temps en temps pour changer l'ambiance, notamment celle-ci.
Peut-être que ça a aidé le geste, parce que c'est très enlevé. Et ça a décrit la nature.
Oui, je pense que de toute façon la musique est très inspirante quand on veut créer quelque chose.
Donc c'était La Moldau de Friedrich Smetana, interprétée par l'Orchestre Symphonique de Chicago sous la direction de Raphaël Kubelik, et qui vous a fait avoir des gestes, Marc Lavoine. C'est vrai que...
Je l'ai reprise d'ailleurs, j'ai fait un texte dessus avec Marc Esposito sur un de mes albums. Mais je veux pas, c'est pour ça que je suis pas du tout un, je veux pas faire le connaisseur et tout ça. Donc la musique, c'est lié à des émotions, c'est lié à des moments de vie. Surtout quand on est inculte, le bonheur de l'inculture, c'est qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose, c'est une joie immense. C'est ce qui se produit quand on est à table avec des gens qui connaissent l'histoire ou la littérature. Il suffit de leur poser 2-3 questions et puis on ressort plus intelligent que quand on est arrivé.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors Marc Lavoine, un père qui soigne sa première mort en étant drôle et en ayant des maîtresses à tout va,
oui.
Une mère mélancolique,
oui.
Et vous qui trouvez finalement une issue après une adolescence apparemment avec quelques souffrances, une issue, c'est celle de l'échappée personnelle, c'est
oui.
De devenir acteur.
C'est-à-dire que moi j'ai choisi le silence parce que je pouvais pas ni contredire mon père ou le trahir, ni ne pas protéger ma mère. Donc j'ai choisi le silence, mon frère a pris des coups pour moi, ça a été mon gilet pare-balles. Et moi, je me suis réfugié dans le silence et je bougeais mieux dans l'imaginaire que physiquement. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec mon enveloppe. C'est difficile de l'accepter pour tout le monde, je crois. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est évident. Et donc, j'avais rencontré...
L'enveloppe corporelle.
J'avais rencontré des jeunes autistes dans le bus. Je me mettais plutôt avec eux. Je comprenais qu'ils avaient, vis-à-vis de tout le monde, comme ça, à l'extérieur, des comportements que je pouvais avoir, moi, dans le privé. J'osais pas trop dire aux gens que je me mettais dans une petite boîte en carton au milieu de ma chambre et j'avais l'impression d'être au milieu de l'océan. Ça se faisait pas tellement de le dire. Comme les filles qui parlent avec leur bébé quand il est dans le ventre et tout ça, c'est un peu un truc fou. Et cette folie-là, elle me semblait quand même être cohérente avec ce que je pensais, avec ce que je voyais quand je regardais Picasso ou quand j'écoutais, même quand je voyais par exemple Jacqueline Maillan, Poiret Serrault, quand je regardais des films comme Le Fanfaron, je voyais des choses à l'intérieur de ces mondes-là.
Vittorio Gassman.
Oui, qui ouais. Était un peu mon film culte parce que ça ressemblait tellement à mon père. Et moi, je ressemblais tellement à Trintignant à côté, en train de regarder l'autre faire n'importe quoi, qui sortait toujours de ces choses-là, grandi, et l'autre qui à côté n'ose rien contredire d'une certaine façon. J'étais quelqu'un qui n'était pas trop pour la contradiction, mais qui vivait. Je m'isolais pas, mais je me mettais en solitude.
Et dans votre solitude de boîte en carton au milieu de la chambre, Claire de Lune, par exemple, de Debussy, ça irait parfaitement, cette façon, justement, d'être baigné dans un univers...
Je crois que le Claire de Lune, c'est vraiment quelque chose qui soigne. Ça soigne quand on est amoureux, ça soigne quand on a du chagrin, ça soigne quand on est jaloux, ça soigne quand on va pas bien, ça nous étend, ça nous détend. Et c'est une musique absolument inouïe qui transporte tout de suite ailleurs, dans un meilleur, dans un monde meilleur.
Alors quand c'est interprété par Philippe Cassard, je sais que vous allez être encore plus conquis parce qu'il arrive à nous mettre dans cet ailleurs avec quelques doigts tout simples. Thank you. un extrait du Clair de Lune de Debussy, interprété par Philippe Cassard, pardon. On a eu un petit fou rire.
Oui, un petit fou rire, c'est normal.
C'était en référence à votre père en même
temps. C'est ça, exactement.
Ça aurait fait plaisir à votre père.
On est un petit peu parti sur le rire. Ce qui est bien, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien?
C'est aussi, voilà, parce que la référence à Debussy nous a fait digresser un petit peu. Marc Lavoine, et alors donc, vous avez choisi d'être acteur, vous étiez ouvreur à l'Olympia, c'est ça?
Oui, j'ai été ouvreur à l'Olympia.
Et comment vous avez décidé de devenir chanteur?
Non, chanteur, j'ai pas décidé.
Ah non,
si, j'ai décidé quand j'ai commencé à faire des castings pour le cinéma. J'ai eu beaucoup de chance qu'à l'Olympia, je suis rentré avec Harry Belafonte, qui c'était la première. Jean-Pierre Bacri venait de partir, j'ai pris sa place et j'ai ouvert au mezzanine en haut pour Belafonte. Et puis Patricia Cocatrix, Paulette Cocatrix m'aimait bien.
Je leur ai dit, patronne, hein,
je leur ai dit que je voulais devenir acteur, donc elles ont invité Serge Rousseau à venir me faire passer des auditions dans la salle de théâtre. Ce que j'ai fait. Et il m'a dit, formidable ça, on se rappelle et tout ça. Et puis, je sais plus, Monique Salmon m'a envoyé chez Georges Baume qui m'a représenté. Et du coup, j'ai fait un feuilleton qui s'appelait Pause Café avec Véronique Jeannot. Et donc, je me suis dit, c'est super. Premier rendez-vous, j'ai le rôle et tout ça. Et ensuite, il fallait passer des castings. Hein. Je savais pas du tout que ça se passait comme ça. J'étais dans ma compagnie de théâtre, ça se passait très bien, on était très collectif. Et d'un coup, il fallait se battre contre son voisin pour obtenir un poste et tout ça. Et moi, c'était pas mon genre. Donc j'ai arrêté et j'ai fait de la musique. Comme ça, je me suis retrouvé dans un groupe, je travaillais avec un collectif, on fabriquait nos chansons. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la chanson. C'était pas une idée au départ à cause de Cobert et de Mouchkine et de Molière. Je voulais faire, et mon père me parlait de Dulin, me parlait de Gérard Philippe, du TNP, de Jean Villard. Je voulais absolument faire du théâtre. Et pas du cinéma d'ailleurs, je voulais faire du théâtre. Parce que être vedette, c'était pas tellement un but. Ce qui était intéressant, c'était d'attraper des textes de Pinter, d'aller chercher des textes d'Ibsen, de travailler sur les frères Karamazov, des trucs de Lorca, de bosser avec des gens et de prendre le rôle d'une fille, le rôle d'un garçon, changer, mettre des clous pour remettre une planche en état, etc. C'était ça qui m'intéressait. C'était plus ce que j'avais appris dans les colonies de vacances ou ce que j'avais appris au football ou même dans la cellule du Parti communiste où les rêves, ils étaient plutôt axés sur le collectif que sur l'individuel. La vedette, c'était pas du tout un objectif. La machine à fabriquer des vedettes, c'est pas terrible.
On vous écoute en duo, vous avez bien aimé faire les duos avec des femmes en particulier. Oui. Là, c'est avec Françoise Hardy, c'est l'album Cher Ami, et cette chanson Toutes mes excuses.
J'ai mal, c'est depuis que je vous ai perdue. Je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses. Cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal, seul depuis que je vous ai perdu. Je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais mes excuses.
Toutes mes excuses, c'est Françoise Hardy qui vous accompagnait, Marc Lavoine dans ce...
Et Alain Lanty qui joue du piano depuis... On joue ensemble depuis... plus de 30 ans, et c'est un mec qui a aussi une façon de jouer qui me touche beaucoup. C'est rare d'entendre des gens qui jouent du piano et qui d'un coup peuvent vous accompagner sur 30 ans sans jamais vous enlacer.
Et vous avez une autre
Françoise,
histoire.
Pareil, Françoise Hardy, c'est une grande artiste.
Ouais, et vous avez une autre histoire de pianiste, puisque vous parlez de Pierre Lanty, de pianiste qui nous conduit tout droit à Samuel Barber, puisque avec un pianiste, vous avez découvert cet adagio de Barber.
Oui, c'était un musicien que j'avais engagé pour un disque à Los Angeles, que je vais souvent à Los Angeles pour faire des disques. J'aime bien aller là-bas. Les studios sont vintage, ils sont toujours en analogique, et ils ont gardé les studios et la maintenance qui va avec. Et donc ce garçon travaillait avec Michael Jackson et avec Steve Wonder, deux personnages très 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 forts et très compliqué. Et tant pendant nos séances, le téléphone sonnait. C'était Michael qui appelait, Michael, pour lui demander de venir danser et écrire une chanson chez lui. Donc il partait une heure ou deux, il revenait. Et à chaque fois qu'il revenait, il était tellement épuisé qu'il se mettait au piano et qu'il jouait un thème que je trouvais magnifique. Et je disais, on pourrait peut-être mettre ça dans mon disque, c'est vraiment très beau et ça me faisait pleurer. Il me dit non, mais ça appartient à quelqu'un, c'est Samuel Barber qui a écrit l'adagio pour violon. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un thème merveilleux.
Alors en plus, Samuel Barber, qui était un des trois grands compositeurs américains du XXe siècle, apparemment n'écrivait que pour lui. Il considérait que quand il fallait composer, il fallait se faire plaisir avant tout à soi. Oui, vous pensez la même chose, Marc Lavoine ?
En tout cas, on a un panthéon avec un public imaginaire, des personnes à qui on veut plaire, ou en tout cas à qui on ne voudrait pas déplaire. Et c'est vrai que si on se fait rire, hein, par exemple, ou si on arrive à trouver un sentiment sur... quelques notes de musique, deux harmonies, et puis peut-être quelques mots. Alors, on est content pendant une semaine.
Alors, lui, il avait écrit en 38, comme ça, dans cette perspective-là. La chose amusante concernant Samuel Barber, c'est qu'à l'âge de 9 ans, il avait écrit une lettre à sa mère en lui disant « C'est pas la peine de m'inscrire au cours de foot, vous perdriez votre temps, chère maman. Je serai compositeur, donc ne perdez pas d'argent et de temps à m'inscrire au foot. Je serai musicien. » L'Adagio opus 11 de Samuel Barber, version pour orchestre et à cordes. C'est Jean-François Esser qui dirigeait l'orchestre de Poitou-Charente. Et effectivement, vous le disiez, Marc Lavoine, finalement, ça a l'air de se suffire à soi.
Oui, c'est-à-dire qu'en écoutant ça, on croit en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un espace, une forme d'intemporalité, où on peut penser à une forme d'immortalité aussi. Et c'est ce qui se produit souvent quand on a mal quelque part et qu'on commence à jouer de la musique, ou pratiquer une discipline qui nous plaît, dans laquelle on s'épanouit. On a des moments où on s'échappe à nous. On est plus grand que soi, on s'échappe un peu à nous-mêmes. Où on est moins...
Un peu comme quand on fait l'acteur, finalement.
On a plus d'humour aussi sur nous. S'oublier, c'est un peu avoir de l'humour et de la distance sur nous-mêmes. Et un peu comme on fait l'acteur, oui.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors comme vous êtes un peu croyant, enfin vous savez plus si vous êtes croyant ou pas, Marc Lavoine. En tout cas dans votre livre L'homme qui ment, on sent qu'il y a un moment de recueillement à l'église.
Oui.
Et j'avais envie de vous offrir de la musique sacrée pour finir.
Ah, formidable.
La Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, dirigée par René Jacobs, qui dirige l'Académie für Alte Musik de Berlin. Et c'est un moment de recueillement. On n'a pas besoin de croire en Dieu. En revanche, Bach peut nous faire croire en Dieu un instant, le temps de la musique, ce moment où l'on s'échappe de soi-même. Voici donc l'ouverture de cette Passion selon Saint Jean pour terminer cette émission, Marc Lavoine.
Merci.
Thank you.
Unser Herrscher, extrait de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach. C'est l'Orchestrias Kammerchor et l'Académie für Alte Musik de Berlin, sous la direction de René Jacob. C'est un disque qui vient de sortir chez Harmonia Mundi, et je crois qu'il vous a plu.
Oui, beaucoup. Merci.
Très belle édition. Et pour finir, puisqu'il nous reste un peu de temps, d'abord, repréciser que L'Homme qui ment vient de sortir en livre de poche avec une très belle photo où l'on voit votre père. C'est vrai, c'est chouette de voir votre père dont vous parlez avec beaucoup de tendresse, beaucoup de recul, beaucoup d'amour.
C'est pas une photo privée, en plus. C'est une photo qui est sortie donc sur les murs. C'est une photo d'une agence de la
Magma. Une photo pour une pub pour l'Humanité.
Voilà, une photo officielle.
Ouais, c'est drôle. Et puis, parler aussi d'une invention que vous avez faite, hein. C'est votre invention?
Oui, enfin, je ne suis pas le seul responsable. C'est une action collective, hein, parce que c'est un cartable connecté. Dans un hôpital, un jour, je me suis rendu compte que les jeunes, les enfants qui étaient atteints du cancer ou de maladies étaient, on leur supprimait leur milieu social, ils n'allaient plus à l'école, et du coup, quelqu'un venait à son chevet, mais il n'avait plus de lien avec sa classe. Donc, j'ai estimé que c'était une discrimination, et on a monté un projet avec la BSF, qui est la Bibliothèque Sans Frontières, un groupe des associations de parents, et on visite les hôpitaux de France, et on essaie de monter ça. C'est pour l'instant encore un prototype. Ça va passer aujourd'hui à l'état d'objet qui est à l'hôpital Roussy, dans les écoles, qui est déjà à l'étude et qui marche déjà, qui fonctionne.
Pour ne pas déscolariser les enfants, donc hospitalisés. Voilà. Un grand merci Marc Lavoine.
Merci à vous.
Et puis, toutes les informations concernant Marc Lavoine sont sur le site de franceinter.fr. Vous pouvez podcaster l'émission, vous pouvez retrouver une photo de Marc Lavoine sur le site, vous avez dit classique, Facebook. Et puis, Charline, je crois que c'est à vous maintenant.
Oui, ça va, les aboublis.
Ça va, et vous?
Mais ça s'est bien passé, là, parce que vous me parlez depuis 3 semaines de Marc Lavoine.
C'est super bien passé.
Vous en parlez.
Oui, bien sûr. Vous allez plutôt aller du côté des chatouilles, c'est ça?
Oui, Andrea Bescon est avec nous. C'est un formidable spectacle.
Ah ouais, je l'ai adoré.
Vous l'avez vu aussi?
Voilà. Vous allez vous éclater.
Très bien.
Bon, écoutez, très belle émission à vous.
Oui, merci.
Salut,
au revoir, Marc Lavoine. On vous embrasse.
Merci.